au cours des dernières heures, vous avez déposé, Maître, votre rapport sur le décès de Vincent Barbe, survenu en 2010. Et on souhaite, en fait, ce que vous semblez souhaiter, c'est qu'on soit beaucoup plus sévère avec les multirécidivistes de l'alcool au volant. Si on ramenait un peu le contexte, qu'est-ce qu'on pourrait dire là, dans cette affaire-là?
Oui, juste vous amener une petite correction. M. Barbe et son décès est survenu le 30 avril 2015. Juste pour, parce qu'il faut le mettre en contexte aussi, au niveau de, parce que le code de la sécurité routière est en constance mouvance. Il est modifié à plusieurs reprises, donc c'est bon d'avoir la fenêtre temporelle, la bonne fenêtre, pour pouvoir apprécier là qu'est-ce qu'il en était. Alors, bien entendu, le décès de M. Barbe, oui, il était en état d'ébriété, oui, il avait déjà eu un éthylomètre, mais également, il y a des facteurs contributifs comme la vitesse, la distraction et le non-port de la ceinture de sécurité. Donc, tous ces facteurs-là ont interpellé davantage la Société d'assurance automobile du Québec qui est venue participer à l'enquête, à toute l'enquête, et également échanger sur les pistes de solutions possibles. Sauf que peu de temps après la fin des audiences, donc les auditions venaient de se terminer, il y a eu le dépôt et le débat en commission parlementaire d'un projet de loi qui venait modifier le code de la sécurité routière pour rendre des mesures plus sévères, les mesures plus sévères pour l'alcool, la vitesse et également les récidivismes. Les récidivistes de l'alcool. Donc, moi, bien entendu, il ne fallait pas que je me mette en porte-à-faux avec ce projet de loi-là et cette loi qui est venue modifier, qui a été adoptée, qui est venue modifier le code de la sécurité routière. Donc, deux choses à ce niveau-là, c'est que, bien entendu, les nouvelles dispositions qui rendent beaucoup plus sévère l'éthylomètre, qui le mettent à vie, non, pour un minimum de 10 ans pour un récidivisme, ne sont pas encore en vigueur. Donc, moi, je recommande de prendre les moyens pour mettre ces articles-là en vigueur pour éviter le plus possible le récidivisme par l'utilisation de l'éthylomètre. Mais également de compter sur la population pour alerter la SAC lorsqu'on voit quelqu'un qui a un comportement qui semble être sous l'effet de l'alcool, des drogues ou peu importe, de se servir du service dénonciation de la SAC pour alerter la SAC, pour que la SAC prenne les mesures nécessaires au niveau du conducteur supposément fautif, là, parce que c'est sûr et certain. Donc, contrer dans le fond, oui, être plus sévère, mais également y aller par un ensemble de mesures pour que tout le monde se sente concerné par cette problématique-là.
C'est ça, vous parlez de la dénonciation. Je ne connaissais pas ce système-là. Est-ce que...
Non, c'est effectivement, moi non plus, et plusieurs personnes, et même suite aux enquêtes publiques, parce que quand on est au palais de justice, on ne peut pas avoir la démonstration en temps réel, ou en tout cas, c'est plus difficile. Mais j'ai fait la gymnastique d'aller soit sur le site le net ou par téléphone, et puis c'est pas facile de s'y retrouver, d'autant plus que lors des auditions de la SAC, la représentante de la SAC est venue me dire qu'il y avait très, très, très peu de dénonciations. Donc, que ce soit pour des personnes avec les facultés affaiblies, le cannabis s'en vient, c'est à nos portes, donc il y a ça, mais il y a également des comportements de conduite qui peuvent être en lien avec des conditions médicales. Et ça, ces comportements-là, ça met la puce à l'oreille à la SAC qui peut, par la suite, entreprendre une démarche beaucoup plus pointue là, concernant un conducteur. Donc, et ça va avec l'adage que la sécurité routière, c'est l'affaire de tous. Donc, c'était effectivement très peu connu et donc d'inciter là la SAC à faire mieux connaître cet outil-là et de faciliter aussi son utilisation.
Ça, c'est clair. Mais aussi, bon, au niveau de la dénonciation, j'imagine qu'avant de, ce que vous suggérez avant d'appeler la SAQ, c'est évidemment d'appeler les policiers quand on est sur la route, qu'on voit quelqu'un qui
oui,
titube
et
tout
ça. Oui, c'est ça. Ça, c'est sûr et certain que, par contre, c'est deux chemins différents. Là, c'est sûr qu'il y a les policiers qui sont une porte d'entrée, mais pour mon enquête, dans le cadre de mon enquête, vu étant donné que la SAC est venue témoigner, est venue aussi ouvrir sur les différentes pistes de solutions, parce que c'est sûr que la ligne dénonciation, bon, c'est le citoyen, mais également, effectivement, s'il y a une situation d'urgence, là, il peut y avoir d'autres canaux aussi là pour nous pour amener à sécuriser une situation qui peut être potentiellement en risque là, d'accident ou de blessure très grave, voire mortelle.
Ce qu'on comprend, c'est que bon, l'entrée en vigueur n'a pas été décrétée parce que les travaux ne sont pas tout à fait terminés
oui,
au sein du gouvernement.
Au sein de la SAC, c'est ça. Et
ouais.
Là, parce que ça, bien, effectivement, là, les c'est pour ça que la SAC devient un interlocuteur là de parce que l'enquête est terminée, donc c'est sûr que moi je suis dessaisie du dossier, donc ce serait important de faire le suivi là auprès de la SAC pour voir si ces travaux là vont être terminés bientôt pour que la disposition qui tout est fait, il reste juste à la mettre en vigueur, donc puisse trouver application le plus rapidement possible.
J'entends déjà des victimes de l'alcool volant qui disent, ben 10 ans, ça devrait être à vie, on devrait même aller plus loin, ça devrait faire partie déjà des véhicules. Est-ce que ça pourrait aider, selon vous, d'aller même encore plus loin que ça?
Ben, écoutez, la disposition, on parle d'un 10 ans minimum, là, sans rentrer dans tout le détail, peut-être la SAC sera à même d'aller plus loin. Moi, ce que j'en ai compris à la lecture de la loi, parce que c'est public, c'est que c'est un minimum de 10 ans, puis après ça, il y a d'autres procédures pour, ça peut être prolongé, et ce qui fait un lien aussi avec la présente enquête, c'est que le fournisseur, celui qui qui installe plutôt l'éthylomètre dans le véhicule, bien, il y a une boîte noire et il y a des données, et ces données-là seront maintenant transmises à la SAC. Donc, si jamais quelqu'un tente de faire démarrer son véhicule alors qu'il est en état d'ébriété, bien là, quand la mise en application des dispositions législatives sera en vigueur, ben ces informations-là pourront être prises en compte pour savoir est-ce qu'on redonne un permis régulier ou on continue avec l'éthylomètre. Donc, et ça, c'est important de le dire parce que pour M. Barbe, c'est qu'il avait tenté de faire démarrer son véhicule à plusieurs reprises alors qu'il était sous l'effet de l'alcool. Donc, la SAC n'avait pas été mise au courant de ces informations-là, bon, concernant à cause de la loi d'accès, à cause de plusieurs choses, mais ça devient important pour bien évaluer le risque de savoir exactement quelles sont les habitudes des conducteurs qui ont un problème avec l'alcool et la conduite automobile. Donc ça, c'est un élément là qui était problématique dans le sens avec bon les lois d'accès, tout ça lors de l'enquête, c'est de prévoir un mécanisme, mais avec la modification législative, là, ça ouvre la porte à la transmission d'informations, à permettre à la SAC, dans quelques mots, à avoir le portrait le plus juste concernant les conducteurs qui sont à risque. Parce que quand on a enlevé la preuve et que quand on a enlevé l'éthylomètre à M. Barbe, il est revenu au risque zéro, c'est-à-dire que les probabilités qu'il reprenne son véhicule automobile en état d'ébriété, ben c'est ça, on est revenu à la case départ plutôt.
Donc, c'est effectivement, c'est assez inquiétant de savoir qu'il y a un manque de communication entre le système, la personne qui l'installe, la SAC, qui semble avoir beaucoup de choses à régler à travers tout ça, là, c'est ce que j'en comprends.
Bien, présentement, oui, et ça l'était lorsque le M. Barbe est décédé, mais avec les nouvelles modifications législatives, là, on va avoir la situation va être beaucoup, beaucoup plus limpide. Donc, on a l'outil, il est là pour permettre à la SAC d'avoir un meilleur portrait de la situation, d'être plus sévère, d'avoir un 10 ans ferme, si on peut dire, pour les récidivistes, et aussi avoir une circulation de l'information optimale pour qu'au bout du 10 ans, elle puisse prendre une décision éclairée. L'outil est là, il reste juste à le mettre en vigueur, et c'est ça, et c'est le but de ma recommandation principale. C'est on a tous les outils. Maintenant, ça prend juste un décret du gouvernement pour mettre ça en application, et c'est pour ça que je recommande là que ça soit mis, que les travaux soient terminés le plus rapidement pour que le gouvernement décrète la mise en vigueur des mesures concernant l'antidémarreur éthylométrique.
Selon vous, avec l'expérience puis les nombreux dossiers que vous avez traités, est-ce qu'on parle de quelques semaines, de quelques mois?
Ça, il faudrait vraiment demander à la Société de
France. C'est difficile à dire.
Pour moi, ça m'est vraiment impossible. Tout ce que je peux faire, c'est de faire une recommandation et de presser la SAC de terminer les travaux. Pour le reste, bien là, c'est vraiment là la Société d'État qui devra prendre les mesures et les actions là. En conséquence.
Qui a le dossier en main, évidemment. Je suis toujours curieuse quand on voit bon ces recommandations. Est-ce qu'il y a justement un lien qui fait que est-ce que c'est suivi les recommandations? Est-ce qu'ils sont dans l'obligation
les recommandations le disent. C'est les recommandations, c'est une recommandation. D'un côté, vu qu'on n'a pas un pouvoir législatif et on n'est pas un pouvoir coercitif, on condamne pas, on n'est pas un tribunal, ça permet de recueillir davantage d'informations et de mettre à contribution les différents acteurs. Ils se sentent pas là les contraints de donc s'ils participent aussi parce que on a un décès et ça mobilise toujours les gens. Un décès, c'est toujours un décès de trop. Mais je vous dirais que la beauté des recommandations aussi, c'est de pouvoir diversifier les destinataires. Des fois, bon, il y a des acteurs qui sont principaux puis qui sont des incontournables ici, la sécurité routière, bien entendu, la SAC. Mais il y a également une mixité au niveau des destinataires. Il y a une mixité aussi des moyens. Donc, recommander une modification législative, c'est une chose, mais entre-temps, il peut avoir la ligne d'énonciation, il peut avoir des mesures qui interpellent davantage la population. Donc, surtout cet éventail de recommandations-là, toutes ces pistes qui sont ouvertes, on peut arriver à rendre effectives les recommandations et également par le pouvoir de l'enquête publique qui amène à s'asseoir dans la même salle, surtout lors du volet recommandations, différents acteurs. Donc, ça les mobilise et souvent, par expérience, peut-être pas dans le cas de M. Barbe, mais dans d'autres problématiques, il y a des gens de différents horizons qui n'étaient jamais parlé, et puis c'est ce qui, des fois, amenait à créer pas un terrain très, très fertile à trouver des solutions. Donc, je pense que le fait que ce soit des recommandations, oui, mais c'est grâce à la mixité des recommandations qu'on peut arriver là à faire changer les choses.